This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec une interview de Laurence Lessing et puis la DER de Bruxelles avec notre cher Quentin Dickinson. C'est le menu d'ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Un jour dans le monde numérique, Uber, virus informatique et tequila. Julien Baldacchino nous en dira plus. 18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde qui tressera des lauriers et dira son amour à Michel Barnier. Tout de suite, le Maroc.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Rompant avec un usage qui voulait que la première visite dans la région fût réservée à l'Algérie, le président de la République, Emmanuel Macron, se rend aujourd'hui au Maroc. Un entretien avec le roi Mohamed VI est évidemment inscrit à l'agenda, ainsi que la rupture du jeûne ce soir. Nous sommes pendant le Ramadan. Peut-être sera-t-il aussi question de la tension sociale permanente, là, depuis quelques mois, dans la région très pauvre du Rif. Les manifestations se poursuivent donc et prennent de l'ampleur, même pour dénoncer corruption et administration tatillonne. Pierre Vermeeren, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Il se passe quoi dans le Rif ?
Il se passe depuis l'automne dernier un fond de manifestations suite à la mort d'un jeune commerçant. Et finalement, ces manifestations, le palais a longtemps pensé les traiter par des négociations. Il y a eu des délégations diverses, administratives, des projets de financement d'investissement, délégations et visites du gouvernement. Et puis, à la veille du Ramadan, à l'occasion d'un incident pas très clair dans une mosquée, le pouvoir a décidé d'enfermer un certain nombre de leaders, dont le fameux Zefzafi. Et depuis, on assiste à une sorte d'effet boule de neige. Les manifestations non seulement ne se sont pas arrêtées, mais elles se sont amplifiées, notamment la nuit, en période de Ramadan, c'est classique, c'était prévisible. Et elles se sont étendues non seulement à la ville, bien sûr, de départ, entre guillemets, d'El Hoceima, ça a gagné les petites villes autour d'El Hoceima, maintenant ça gagne Nador et d'autres villes du Nord. Donc on est dans une dynamique un peu étrange. Et puis il y a eu des manifestations ce dimanche importantes, une grande manifestation de solidarité politique à Rabat dans la capitale.
Il y avait du monde ?
Apparemment quelques dizaines de milliers de personnes. Mmh. Bon, dans une grande ville de presque 2 millions d'habitants avec Salé, c'est pas énorme, mais en tout cas il y avait un encadrement politique important.
Policier, vous vouliez dire peut-être ?
Non, je voulais
politique.
Dire politique, c'est les partis, dire... les formations politiques, des cadres des différents partis qui ont été successivement éconduits du pouvoir, de l'USFP ou du PJD, alors que ces partis avaient demandé à leurs militants de ne pas descendre. Et puis l'organisation islamiste Justice et Bienfaisance qui a massivement encadré la manifestation, et puis des jeunes, des intellectuels, des organisations de droits de l'homme.
Quels sont les mots d'ordre ?
Alors les mots d'ordre, en l'occurrence, depuis l'emprisonnement de ces personnes du Nord, on serait un peu plus dans une centaine d'emprisonnements, c'est la libération des prisonniers politiques. C'est assez nouveau parce que auparavant, dans le RIF, les mots d'ordre, c'était bien sûr la dénonciation de la corruption, de la pauvreté, du sous-encadrement administratif, l'hôpital, l'école, le chômage. Donc c'était des mots d'ordre économiques et sociaux, mais les emprisonnements ont donné une connotation politique.
Quand on dit corruption, j'ai vu aussi que la critique était faite sur l'État marocain. Ça veut dire quoi précisément ? La corruption, on voit, mais l'État marocain, on lui reproche quoi ? À part d'être corrompu.
L'État marocain, c'est le fameux Marzen qui n'a jamais vraiment historiquement été accepté dans le Nord, qui a entraîné plusieurs révoltes de grande ampleur dans les années 20, la guerre du Rif, les émeutes aux indépendances. Donc ce Marzen, il est perçu dans certaines provinces et notamment dans le Rif comme un État extérieur à la société, comme un État arabe entre guillemets, comme un État autoritaire, comme un État très dur, très répressif. Donc il y a toujours une grande méfiance et finalement dans une région dissidente, c'est assez normal. Mais aujourd'hui, le Marzen, ce qu'on lui reproche surtout dans cette région, c'est la corruption et c'est finalement son incapacité à développer. Il faut rappeler en deux mots qu'à l'époque de Hassan II, ça a duré très longtemps, ce règne, presque 40 ans. Il n'y a pratiquement eu aucun investissement public et que donc on revient de très loin et cette situation se pérennise.
Pourquoi le RIF est dissident historiquement, Pierre Vermeeren ?
C'est la seule région méditerranéenne du pays. c'est la Sicile ou la Kabylie du Maroc. C'est une région très peuplée, c'est une région berbérophone, qui n'a jamais vraiment été soumise, comme toutes ces montagnes méditerranéennes, par les pouvoirs des plaines. Et au fond, il se trouve que les Français ont délégué cette région à l'Espagne au début du protectorat, et les Espagnols, tout d'un coup, au lendemain de la guerre de 14, ont décidé de la coloniser par la force. Ils ont réussi, les Rifains, à massacrer une armée espagnole entière à Annual, et il s'en est suivi une guerre qui a duré des années avec la proclamation de la République du Rif. Et dans la mémoire politique de cet événement, de ces répressions très dures, hein, pendant 5 ans, il y a eu des bombardements au gaz moutarde revendus par les Allemands, il s'en est suivi donc une mémoire très douloureuse, puisque non seulement l'Espagne et la France, puisque Pétain dirigeait l'armée française à la fin de la guerre, sont intervenus, mais aussi bien sûr avec l'accord du représentant du sultan dans le nord.
Redites-nous quelle relation le roi Hassan II, père de Mohamed VI, entretenait ou n'entretenait pas avec cette région ?
À l'indépendance, les Rifains ont voulu reprendre leur autonomie traditionnelle. Ils se sont soulevés à 2 reprises. Apparemment, il y a eu des manipulations politiques, mais enfin, toujours est-il qu'ils se sont soulevés en 58 et en 59. Et là aussi, un épisode très violent, moins violent et moins long, mais des bombardements en napalm, cette fois, par les armées probablement françaises et marocaines. Marocaines principalement, les forces armées royales qui se sont entraînées en quelque sorte, qui se sont fondées dans cet épisode malheureux. Et donc, plusieurs milliers de morts. Et donc, à nouveau, le Rif vit dans une soumission militaire, et Hassan II, au lieu d'essayer d'intégrer cette région rebelle, a décidé de la punir. Il n'a jamais mis les pieds pendant tout son long règne jusqu'en 1999 dans le Rif, et il a décidé de ne pas investir. Et du coup, la nature ayant horreur du vide, l'économie de la drogue a remplacé l'économie formelle dans cette région, et elle est passée progressivement sous la coupe des mafias.
Et son fils, Pierre Vermeeren, le roi actuel, Mohamed VI, lui a tout de même un rapport différent. Il y a eu des gestes politiques dès qu'il a accédé au pouvoir, des gestes politiques en direction du nord du Maroc.
Oui, il s'est rendu
et
tout
économique.
De suite. D'abord, il aime beaucoup Tanger et les villes du Nord. Bon, Tanger, c'est pas le Rif, mais c'est quand même le Nord. Il a beaucoup investi depuis 15 ans dans les villes de Tanger à l'ouest et d'Oujda à l'est. Son premier discours s'était déroulé à Agdir, dans la capitale d'Abdelkrim. Il avait annoncé la création d'un institut d'études amazigh pour essayer de renouer le fil avec les Berbères, puisqu'il a une sensibilité forte vis-à-vis de cette culture amazigh d'origine. Si vous voulez, les grands investissements ne suffisent pas à employer des millions de personnes. Et l'économie de la drogue, elle, en tout cas, et de la contrebande avec les présidés espagnols, s'est poursuivie.
Quelques questions encore, Pierre Vermeeren, autour de cette crise du Rif. On sait que dans la vie politique marocaine, l'une des lignes jaunes, c'est la critique du roi. Est-ce que cette ligne a été dépassée par les manifestants depuis le mois d'octobre ? Est-ce qu'il y a une critique de la personne de Mohamed VI ?
Ce qui est inquiétant, c'est pas tellement des critiques directes, c'est plutôt que le roi, de fait, et ses très proches conseillers sont en première ligne. Parce que ça intervient, cette crise sociale, sur fond de crise politique au Maroc. Les élections étaient intervenues à l'automne. Pendant 6 mois, il n'y avait pas eu de gouvernement. Et le leader, finalement, des islamistes officiels a été écarté du pouvoir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement assez faible, avec une personnalité qui n'est pas très marquante, et des forces politiques comme le PJD ou les socialistes de l'USFP qui ont été successivement écartés. Le parti de l'indépendance de l'Istiklal a été discrédité. Et donc, aujourd'hui, entre le conseiller du roi et les manifestants, il n'y a pas grand monde, et c'est ça un des problèmes.
La police, c'est un aspect non négligeable de l'administration marocaine. Elle verrouille toujours le pays, Pierre Vermeeren ?
Évidemment, le ministère de l'Intérieur n'a jamais relâché son étreinte. Alors, elle se fait moins brutale qu'à l'époque de Hassan II. Encore que, évidemment, il y a des emprisonnements de dissidents ou de personnes qui, à titre individuel, par exemple, s'en sont pris au roi. Certaines lignes rouges ont entraîné, de fait, la quasi-disparition de la presse pluraliste. Il y a beaucoup de journaux, mais ils sont quand même tous auto-censurés, disons. Et la police, évidemment, en cas de répression, elle intervient, pas toujours très finement, même si c'est moins brutal qu'à certaines époques. Les arrestations vont être très encadrées, il y a l'intervention des avocats, mais évidemment, il y a des dérapages qu'il est facile aujourd'hui, en plus, de transmettre avec les nouveaux médias audiovisuels.
Est-ce qu'il y a un couvercle sur la cocotte minute au Maroc qui empêche de voir quelle est, je file la métaphore, véritablement la température sociale du pays ?
Je pense pas qu'il y ait un couvercle, mais il y a de fait une coupure très massive et très importante entre la société, appelons-la civile, en tout cas la société, le peuple, les plusieurs dizaines de millions d'habitants, et la petite société politique de Rabat. Très peu de gens sont inscrits sur les listes électorales, au regard de, je crois que c'est 15 sur 24 millions. Le taux de participation aux élections, c'est la moitié de la population. Les jeunes se désintéressent totalement des partis politiques, les militants sont très peu nombreux. Donc là, vraiment, alors je sais que ça ne se retrouve pas qu'au Maroc, malheureusement, mais quand même, cette coupure, cette absence d'attente d'horizon politique et aussi la dénonciation permanente de la corruption, qui est incontestablement importante, les classements internationaux le disent, tout ça donne un paysage un peu décevant, surtout après les promesses qui avaient été faites au moment des printemps arabes, il y a 6 ans ou 7 ans seulement.
Alors venons-en à cette visite du président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui au Maroc. Que peuvent se dire les deux chefs d'État? Qu'en est-il de la relation bilatérale aujourd'hui?
Alors, les rois du Maroc successifs ont toujours eu des relations très privilégiées avec le président de la République. De ce point de vue-là, la monarchie présidentielle de la Ve République leur convient très bien. Le roi actuel, Emmanuel Macron, arrive à la présidence de la République au même âge que le roi du Maroc était arrivé en 1999.
Ça crée des liens.
Ça crée des liens, et à l'époque, il avait été pris en main par Jacques Chirac. D'un moment, ça l'a un peu énervé. Mais actuellement, c'est lui le senior, si on peut dire, et il accueille donc le jeune président. Ils ne se connaissent pas, à ma connaissance, ou très peu, donc je pense qu'avant tout, ce voyage, c'est le moyen et la nécessité de faire connaissance, parce que de toute manière, les décisions importantes qui seront prises, elles le sont entre eux, probablement.
Il y a une volonté de relancer cette relation bilatérale, elle a été abîmée par le précédent quinquennat.
Il y a eu la plus grande crise politique que l'on a connue depuis l'affaire Ben Barka, c'est-à-dire depuis De Gaulle, hein, en un demi-siècle. C'est cette coupure quasiment totale, sauf dans le domaine éducatif, je crois, des relations entre la France et le Maroc. Ça a duré presque 1 an et demi. Ça a été une crise très importante, qui a été relativement peu médiatisée, mais qui a quand même surpris énormément le personnel politique et administratif français, donc et qui signifiait évidemment une grande colère de la part du Maroc. Donc, clairement, aujourd'hui, le Maroc veut renouer des liens d'excellence, et je pense que le roi préfère expliquer lui-même au président français comment fonctionne le Maroc que de le laisser lire un certain nombre de textes.
Est-ce que le terrorisme, Pierre Vermeeren, est le dossier le plus important aujourd'hui de cette relation bilatérale?
Alors, outre la situation au Maroc dont on a parlé, oui, c'est probablement le cas. Hein. Plusieurs milliers de Marocains ou de jeunes Français se trouvent au Moyen-Orient, ou en Libye éventuellement. Donc c'est un dossier très lourd et que les deux pays partagent. Il y a la question du Sahel aussi, où l'armée française est engagée. Il y a la question de la Libye, qui a quand même un potentiel de déstabilisation de tout le Maghreb. Il y a une grande inquiétude aussi sur l'Algérie, de la part du Maroc comme de la France. Il n'y a pas de terrorisme, mais enfin, en tout cas, la situation politique. Donc cette situation, disons, cette géopolitique régionale, sans parler de la crise, de la guerre en Syrie et de la crise avec les monarchies du Golfe, dont on reparlera peut-être, tout ça dresse un paysage qui nécessite une très forte implication au plus haut sommet de l'État de la part de ces deux personnages, mais aussi bien sûr de ces deux acteurs, mais aussi bien sûr de la présidence algérienne qui pour l'instant est à moitié en vacances, faut-il le rappeler.
Il y a une coopération tout de même sur le terrorisme.
Il y a une coopération
intense, j'imagine.
Absolument, très intense, parce que justement, faut pas oublier que les attentats s'étaient déroulés en pleine crise franco-marocaine et que les deux États, bien sûr, échangent énormément d'informations. On parlait tout à l'heure des Rifains. Il y a une immigration rifaine de peut-être 1 ou 2 millions de personnes en Europe. Et il y a énormément d'échanges dans le cadre du trafic de drogue, mais aussi des vacances, de la contrebande. Donc tout ça était très opaque. Depuis 2011, il y a un effort constant d'essayer de surveiller les flux. Et ça, évidemment, la coopération policière avec l'Espagne, parce que sans l'Espagne, rien n'est possible, est extrêmement intense.
Pierre Vermeeren, le dernier point et ma dernière question concerne précisément la crise dans le Golfe Persique. La France et le Maroc disaient sur la même ligne. Quelle ligne?
La ligne des amis du Qatar, déjà. Et doublé de la ligne des amis de l'Arabie Saoudite. Et donc les deux États, finalement, paradoxalement, sont très liés à ces deux monarchies du Golfe qui sont en train de se sont disputées de manière très brutale, parce que finalement ce sont les deux monarchies wahhabites de la région. Manifestement, l'Arabie Saoudite a décidé de trouver un bouc émissaire pour l'aide au terrorisme auprès du président américain, en se débarrassant du petit Qatar, qui lui-même est un État relativement virtuel. Hein. C'est un immense ce gisement de gaz avec quelques habitants. Donc ça ne coûte pas grand cher à l'Arabie Saoudite de faire un exemple, mais c'est très ennuyeux pour le Maroc qui est très dépendant des capitaux du Golfe. Et quant à la France, vous jugerez vous-même ce qu'il en est.
Merci Pierre Vermeeren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. 18h32, ailleurs dans le monde, à suivre.
Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know?
Side des Red Hot Chili Peppers, 18h35.
24 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et bonsoir, Michael Thébault.
Et bonsoir, Nicolas.
Pour commencer, Michael, une rencontre rare ce soir, rencontre avec l'un des plus prestigieux professeurs de droit de l'université de Harvard. J'ai nommé Lawrence Lessig.
Dit Larry Lessig, directeur, entre autres, à Harvard.
Howard du Centre de recherche sur la corruption, militant de l'Internet libre et surtout aujourd'hui activiste pro-démocratie. Alors le grand public français ne le connaît pas forcément, mais il est pourtant une véritable sommité mondiale, célébrissime aux États-Unis depuis plus de 20 ans, consulté par Bill Clinton, Barack Obama ou Bill Gates. On dit de lui qu'il est aussi redoutable que redouté. Dès 1993, le New York Times écrivait « Il ne fait pas la loi, il est la loi ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a été l'un des tout premiers aux États-Unis et donc au monde à s'intéresser à un nouvel outil appelé Internet. Et il s'est empressé de vouloir en garantir les libertés, toutes les libertés, en inventant le concept de licence libre. Lawrence Lessig est venu ici même à Inter nous en parler, propos traduits par Bart Abben. Écoutez.
À l'époque, je travaillais beaucoup sur le droit et la loi autour d'Internet. À l'époque, très peu de gens, finalement, savaient véritablement comment fonctionnait l'interaction entre la technologie et puis l'idéal de liberté, la démocratie dans Internet. Et à l'époque, je faisais partie d'un groupe de personnes qui commençaient à essayer de formuler des idées autour de ces thèmes. Et une réalité assez déprimante, finalement, c'est que nos craintes de l'époque, notamment à propos de l'évolution d'Internet, de la tournure que pourraient prendre les choses, eh bien, beaucoup de ces choses sont devenues une réalité. C'est-à-dire qu'Internet est devenu, alors qu'à la base, c'était un endroit où on pouvait protéger la liberté et également la vie privée. C'est devenu l'inverse. C'est un endroit où la vie privée n'existe plus et où l'opportunité de liberté, d'expression est de plus en plus restreinte par des entreprises ou par des gouvernements.
Voilà, réflexion donc qui avait été faite pour la première fois il y a plus de 20 ans, imaginez. Et ce concept de licence libre lui a du coup valu aussitôt aux États-Unis le surnom de bête noire des dinosaures de la culture et du divertissement, de Microsoft à Disney. Et selon lui, eh bien c'est encore vrai aujourd'hui.
Je pense qu'il y a plusieurs combats. Je pense que le combat de la culture est peut-être celui qui est le plus simple à comprendre. C'est un combat que j'ai mené d'ailleurs en France également. J'ai été d'ailleurs invité au Festival d'Avignon et on m'a présenté comme un peu comme un radical un peu fou qui croyait qu'il était possible de partager librement la création. Et très souvent, les gens ont tendance à dire, mais c'est parce qu'il est contre la culture. Évidemment, c'est simplifier les choses. Ce que l'on voit dans le contexte d'Internet, par exemple, ce n'est pas un combat contre la culture, c'est un combat contre le contrôle commercial du développement et du partage du contenu culturel. Et ce qu'Internet a permis de faire, c'est effectivement de secouer un petit peu tout ça. Et je crois que les arguments d'il y a 20 ans sont encore très vrais aujourd'hui.
Et depuis près d'une dizaine d'années maintenant, Lawrence Lessig sillonne les États-Unis, la planète, en infatigable défenseur de la démocratie, démocratie qu'il juge partout en danger, et d'abord chez lui, a fortiori bien sûr depuis l'élection de Donald Trump, et à ses yeux, l'ennemi numéro un s'appelle la corruption.
Je dirais que dans toutes les grandes démocraties du monde, on a le sentiment que le système a failli. Et c'est assez inquiétant lorsque vous pensez à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, l'idée c'était de propager la démocratie puisque cela permettrait la paix et la prospérité, génération après génération. Et quelque part, je crois que nous avons failli. Nous sommes en situation d'échec. La situation dans mon pays est corrompu. Alors je ne parle pas simplement de pot de vin ou de corruption, mais corruption de manière fondamentale, de manière institutionnelle. Aux États-Unis, nous avons un système où entre 30 et 70% du temps passé par nos parlementaires est utilisé à lever des fonds pour leur campagne, à générer des tonnes d'argent. Donc c'est une toute petite fraction de l'Amérique qui discipline.
Mais vous avez tenté de faire évoluer justement cette loi loi sur le financement politique, le financement des campagnes. Ça n'a pas marché, on ne vous a pas écouté, entendu.
Ah, le combat n'est pas terminé, celui-là ne l'est pas. Je crois que la lutte, cette lutte, est extrêmement importante pour l'Amérique. Ce n'est pas d'ailleurs un problème américano-américain. Seulement, qu'on parle du réchauffement de la planète, que l'on parle des dépenses astronomiques en matière de défense qui continuent aujourd'hui, encore une fois, aux États-Unis et dans d'autres pays, on ne pourra pas gérer ces problématiques si on ne gère pas la corruption d'abord.
Voilà, et dans ce qui ressemble pour l'instant, selon lui, à une impasse de la démocratie, eh bien, il y a une catégorie de citoyens dont le rôle est absolument fondamental. Ce sont les lanceurs d'alerte, dont un en particulier, Edward Snowden, qu'il a même fait intervenir en direct à Harvard par téléconférence depuis son exil forcé en Russie. Alors, que représente-t-il à ses yeux ? Réponse.
Il joue un rôle extrêmement important. Et je crois que les sociétés libres l'ont bien compris. Lorsque vous pensez à ces lanceurs d'alerte, il en existe de nombreux. Certains d'ailleurs peuvent être critiqués, mais d'autres, comme Edward Snowden, méritent tout notre respect. Il paie aujourd'hui très cher ses positions, son choix qui a été celui de rendre l'information publique. Le gouvernement américain s'était lancé dans une opération d'espionnage. De chacun, nous, personne n'était au courant. Edward Snowden a rendu cela public. D'aucuns vous diront, Snowden n'a rien fait. Snowden n'a rien changé. Le fait est qu'il y a eu d'énormes décisions, notamment dans les tribunaux américains, à propos de la surveillance et de l'anticonstitutionnalité de ces surveillances et de ces travaux d'espionnage menés par les autorités américaines. Et c'est ainsi que le changement se produit. Le gagnant, évidemment, on ne va pas lui donner la reconnaissance. Mais le fait est qu'il y a eu des conséquences profondes pour les États-Unis.
Et Lawrence Lessig s'est d'ailleurs récemment rendu en Russie pour rencontrer Edward Snowden. Rencontre évidemment clandestine, mais filmée par la réalisatrice Flore Vasseur, qui en a fait un formidable documentaire, Mythic Snowden, c'est le titre. Un film qui sera diffusé demain soir sur Arte à 23h30.
Et comme chaque mercredi, Michael, place maintenant à l'actu européenne.
Avec, comme toujours, notre Quentin Dickinson national, pas en direct de Bruxelles, mais de Strasbourg aujourd'hui, où siège toute la semaine le Parlement européen. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Michael, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, Quentin, vous avez déterré pour nous un casse-tête de plus pour les négociateurs du Brexit.
Oui, le Service national britannique de santé, fleuron admiré du premier gouvernement travailliste après la dernière guerre mondiale, est en pleine déconfiture depuis le début des années 2000. Les coupes budgétaires successives infligées par les gouvernements conservateurs, ainsi que le manque de personnel qualifié, dont le déficit en infirmiers est évalué actuellement à près de 30 000 personnes, conduisent au quotidien à une situation chaotique dans les hôpitaux et dispensaires. Heureusement, il y a le renfort des professionnels de la santé venus des autres pays européens. Actuellement, ils sont environ 50 000 à être partis outre-Manche, dont 20 000 médecins, infirmiers et infirmières. Mais voilà, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne mettra fin à sa participation au marché unique de l'UE et donc à la liberté de circulation des personnes et à leur droit de s'installer en Angleterre. Le sort des ressortissants européens déjà établis au Royaume-Uni est donc particulièrement incertain et depuis le référendum du 23 juin 2016, les jeunes professionnels et artisans français, allemands ou autres hésitent à s'expatrier au Royaume-Uni.
Et du coup, quelle incidence pour ce Service national de santé ?
L'incidence, elle est tout simplement catastrophique. Par rapport au nombre d'infirmiers et d'infirmières recrutés tous les mois il y a un an, avant le référendum Brexit, on enregistre désormais une chute de 96%, une chute, vous avez bien entendu, de 96% des Européens candidats aux professions médicales au Royaume-Uni. Voilà, c'était donc un coup de projecteur sur une situation de crise engendrée par le Brexit, situation totalement prévisible et dont il n'aura cependant jamais été question au cours de la campagne du référendum l'année dernière.
Mais on en parle grâce à vous, Quentin Dickinson. Merci, en direct du Parlement européen à Strasbourg.
Pour finir, Michael, direction la Chine où la folie impressionniste continue.
Ah oui, les Chinois, on le sait, raffolent des peintres impressionnistes et depuis quelques jours, le tout Pékin se presse à une exposition inédite. Inédite puisque le musée de Saint-Étienne, deuxième musée français d'art moderne et contemporain, se déplace pour la première fois dans la capitale chinoise. Et attention, chef-d'œuvre au rendez-vous. Reportage à Pékin signé Dominique André.
Monet, Courbet, Matisse, Soulages, Dubuffet, le musée de Saint-Étienne a transporté à Pékin quelques-uns de ses chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire de la peinture française depuis 1800. Mais pour accéder aux tableaux vedettes des riches collections du musée, il faut s'armer de patience, surtout quand il s'agit des nymphéas de Monet, le fondateur de l'impressionnisme. Yin Xuan, une passionnée du peintre français, a fait des photos des nymphéas observées par Monet dans le bassin de sa propriété en 1907. Elle les a postées aussitôt sur WeChat, le réseau social le plus populaire en Chine.
On adore l'art français. Depuis longtemps, en fait, on commence à savoir comment admirer les tableaux. Et les Chinois fréquentent beaucoup le musée du Louvre et les autres musées. Donc on connaît déjà un peu genre, les tableaux de ces grands artistes. On connaît Monet, qui est un peintre très connu dans le monde entier. C'est aussi un tableau, je crois, qui est représentatif pour l'artiste lui-même. À Paris, il y a une maison de Monet qui n'est pas très loin de Paris. On est déjà allé, comme moi, je suis déjà allé à sa maison, son jardin. Pour le public chinois, c'est plutôt le nom de Monet qui attire d'abord leur attention. Après, quand on regarde le tableau, c'est plutôt les fleurs.
Pourquoi les Chinois se passionnent-ils pour les impressionnistes? Dans le public se trouvait un amoureux de la culture française, Dong Tiang, directeur du département français de Beida, la plus ancienne université de Pékin.
Les Chinois aiment beaucoup les impressionnistes parce qu'il y a un côté art de vivre, la paix, le bonheur. Et ça, ça touche les Chinois et ça rejoint, je dirais même, l'esprit chinois. Parce que dans notre poésie, y compris dans notre peinture, c'est ce contact avec la nature. Les impressionnistes, c'est un peu pour les Chinois, c'est avant qu'il y ait une arrivée en masse de la société, de l'industrie, où l'homme peut encore garder, si on peut dire, une certaine harmonie avec la nature.
51 œuvres sont exposées, dont l'incontournable Picasso. Martine Danser-Mourès, directrice du musée de Saint-Étienne, a voulu exposer cet artiste espagnol, mais très important en France, car il permet au public chinois de découvrir l'histoire de la rencontre du maître avec le musée français.
Picasso, c'est un artiste qui est effectivement extrêmement important en France. Mais pourquoi aussi il est très important pour nous? Parce que Picasso, en 1945, deux élus de la ville de Saint-Étienne avaient demandé, pour le musée qui allait rouvrir après la guerre, ils avaient demandé à Picasso, comme il était un artiste qui incarnait la résistance, si en fait Picasso voulait bien donner un tableau. Et Picasso a été très généreux, il a offert ce tableau. Et pour nous, c'est une sorte de Joconde, c'est-à-dire que c'est une sorte de tableau qui ouvre le futur du musée. On ne pouvait pas penser en 1945 que le musée allait devenir le second musée d'art moderne et contemporain en France. Et en fait, il y a quelques œuvres qui sont emblématiques parce qu'elles racontent aussi l'histoire de nos collections. Et l'histoire de collections, c'est toujours assez fabuleux.
De grandes précautions ont été prises pour protéger les œuvres venues par avion dans des caisses climatisées. Après Pékin, la collection s'envolera pour Chengdu et Wuhan dans le sud de la Chine.
Et ce tableau emblématique de Pablo Picasso, peint en 1944, s'intitule « Nature morte, peau, vert et orange ». À demain.
À demain, Michael.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
18h49, un jour dans le monde numérique. Julien Baldacchino, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Pour commencer, Julien, les ennuis d'Uber qui ne s'arrêtent pas aux frontières des États-Unis.
Oui, alors que le patron de la firme a annoncé qu'il se mettait en congé le temps qu'Uber tourne la page de ses polémiques outre-Atlantique, le numéro 1 mondial des VTC est aussi engagé dans un bras de fer en Égypte contre l'État qui veut avoir accès à ses données de localisation en temps réel. Et ce sont des données très précieuses, celles qui vous permettent de savoir sur votre smartphone où vous en être dans votre trajet et donc qui associe dès que vous montez dans un Uber votre profil à une localisation précise. Des données que le renseignement égyptien aimerait pouvoir exploiter. Pour l'heure, l'entreprise a refusé catégoriquement de fournir ces données, tout comme son homologue local qui s'appelle Karim. Seulement, il pourrait s'y retrouver contraint car une loi est en discussion au Parlement égyptien pour les obliger à fournir ces données en cas de saisine.
On file au Pakistan, Julien, où un simple commentaire Facebook peut avoir des conséquences dévastatrices.
Oui, samedi dernier, un jeune homme de 30 ans a été condamné à mort pour des commentaires jugés blasphématoires postés sur Facebook. Il avait échangé au sujet de l'islam et s'en serait pris au prophète Mahomet et à sa famille en discutant avec un inconnu qui s'est avéré être un agent du gouvernement. Or, au Pakistan, le blasphème est interdit par la loi et peut vous valoir non seulement un lynchage en place publique, mais aussi la peine de mort. Et depuis quelques mois, l'État mène la bataille tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Une chasse qui peut mener à des dénonciations ou des faux témoignages. C'est ce qu'en dit la militante pour les droits de l'homme pakistanaise Farzana Bari dans une interview pour la télévision turque.
Maintenant, le gouvernement offre un nouvel outil aux extrémistes religieux et à ceux qui veulent assouvir une vengeance personnelle. Et ils vont pouvoir accuser leurs opposants d'avoir posté un contenu blasphématoire. Or, au Pakistan, les réseaux sociaux ne sont pas encore au point. Il y a encore beaucoup de faux comptes pour accuser des gens.
Là où c'est particulièrement préoccupant, c'est que les pouvoirs publics ont forcé Facebook à dépêcher sur place une équipe de modérateurs pour supprimer ces contenus blasphématoires, sous peine de coupure totale du service dans le pays.
Des chercheurs ont par ailleurs découvert l'existence d'un virus informatique, Julien, potentiellement ravageur.
Et sans le savoir, on l'a déjà vu à l'action le 17 décembre dernier, avec une panne électrique géante qui a affecté une centrale à haute tension près de Kiev, en Ukraine. Elle était liée à une cyberattaque, de sorte qu'il a fallu déconnecter tous les disjoncteurs du réseau informatique pour pouvoir les faire repartir. Mais le malware, le logiciel malveillant qui a agi, il était encore inconnu. Et bien cette semaine, deux cabinets spécialisés en cybersécurité l'ont identifié, ce logiciel nommé Industroyer, a une particularité unique, il peut s'immiscer dans n'importe quelle centrale électrique, quelle que soit sa structure, quels que soient ses dispositifs de sécurité, avec un seul objectif, la saboter sans aucune intervention humaine. Et puis ce malware est d'autant plus dangereux que les experts ont déterminé qu'il avait été conçu à partir d'une page blanche, et non pas à partir d'un ancien virus modifié, ce qui veut dire qu'il va être quasi impossible d'identifier sa provenance.
Et on termine, Julien, avec votre trouvaille de la semaine, un nuage qui produit de la tequila.
Et je vous assure que c'est vrai, c'est une invention de l'Office du tourisme du Mexique pour attirer les touristes allemands via une campagne sur Internet. Écoutez plutôt.
Pour inciter les Allemands à venir en vacances au Mexique, nous avons combiné la spécialité mexicaine qu'ils aiment le plus avec la météo qu'ils détestent le plus pour créer ce nuage de tequila.
Alors les communicants ont coopéré avec des scientifiques pour créer ce nuage d'intérieur fait de
nuage tequila, d'intérieur.
Ouais, tequila liquide transformé en brouillard visible par des humidificateurs à ultrasons. Et chaque fois qu'il pleut à l'extérieur, eh bien le processus de transformation est inversé. La tequila devient liquide à nouveau. Il n'y a plus qu'à tendre son verre et à boire avec modération. Le nuage est apparu la première fois à Berlin il y a quelques semaines, le temps d'une soirée dans une galerie d'art. On attend pour l'instant ses prochaines apparitions en Europe.
Julien Baldacchino, merci. 18h53, deux crooners à suivre. Dean Martin, puis Arnaud Le Parmentier.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold. But gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
L'élégance de Dean Martin, 18h54.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes amoureux Arnaud, de qui?
Eh bien de Michel Barnier.
Oui.
Je vois que vous êtes surpris.
Expliquez-nous.
Vous êtes bien parisien. L'homme politique savoyard a été trop longtemps méprisé. C'est un excellent skieur, disait de lui un diplomate bruxellois pas très sportif. On s'est moqué de lui qui parlait si mal anglais à ses débuts. On trouve tous Michel Barnier un brin fatigant. Lorsqu'à peine entré dans son but bureau, il monte la photo du général de Gaulle et d'Adenauer et nous explique très sérieusement que c'est ce qui a enclenché son engagement politique. On trouve ces phases interminables, mais en période de dégagisme, voilà un Michel Barnier qui ne disparaît jamais.
Et vous l'aimez?
Ah oui, à 66 ans, c'est lui qui va négocier avec les Anglais leur sortie de l'Union européenne après avoir été, je le vous rappelle, ministre des Affaires européennes, ministre de l'Environnement, ministre des Affaires étrangères sous Chirac, ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, et puis entre-temps commissaire européen chargé des aides régionales de la réforme des institutions, puis de nouveau commissaire européen chargé des marchés financiers. Bref, une belle carrière qui s'achève aujourd'hui avec un Brexiteur en chef. Barnier a fourbi ses armes dans un entretien accordé au Monde, publicité pour ma publication, et à la presse européenne.
Et sur le Brexit, Barnier, Arnaud, fixe les lignes rouges aux Britanniques.
Oui, pauvres Anglais, pendant 40 ans, ce sont eux qui ont fixé les lignes rouges à l'Europe et on leur a tout cédé, ou presque. Désormais, le rapport des forces est inversé avec Michel Barnier. Alors, les Anglais ont 2 ans pour négocier leur sortie de l'Europe, sinon c'est le cliff, la falaise, le grand saut dans le vide. Les Britanniques nous font réviser notre vocabulaire. Le Brexit sera-t-il hard, dur, sera-t-il soft, mou, sera-t-il generous, généreux?
Jusque-là, ça va, hein, l'anglais.
Court-on à l'échec, le no deal, comme dit si préparé Michel Barnier. Bon, Nicolas, vous voilà enfin anglophone, mais je vous l'affirme, une seule chose compte, le Brexit doit être fast, fast and furious, rapide et même accéléré. En effet, l'Union européenne ne peut pas subir pendant des années les tergiversations britanniques. Les Anglais ne peuvent pas non plus vivre dans l'incertitude. C'est mauvais pour l'économie. Déjà, la croissance recule, l'inflation revient. C'est dangereux politiquement avec la volonté d'indépendance d'Écosse et les tensions en Irlande du Nord. Michel Barnier l'a dit avec force dans Le Monde. Tout délai supplémentaire est source d'instabilité, a-t-il déclaré avant d'ajouter. Mais je ne peux pas négocier avec moi-même. Effectivement, 3 dossiers.
Super Barnier. Hein.
C'est très important, je vous invite à lire Le Monde. 3 dossiers sur la table. 1. L'addition que doit payer Londres pour quitter la copropriété européenne pour solde de tout compte, ce sont des dizaines de milliards d'euros. 2. Le sort des résidents britanniques en Europe et des Européens à Londres. 3. La frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord qu'il faudra bien rétablir sans la rétablir. Ces affaires sont explosives, on ne cesse de le répéter à propos des Britanniques. Qu'allait-il faire dans cette galère ?
Et les difficultés de Theresa May, je suis scotché Arnaud, parce que vous dites les difficultés de Theresa May vont faciliter les choses pour les Européens ?
Eh ben non, pas du tout Nicolas. Alors on a certes tous souri en coin en voyant que la première ministre britannique perdait sa majorité absolue avec ses élections anticipées. Elle nous a rappelé la dissolution ratée de Jacques Chirac en 1997 qui ouvrit les portes du pouvoir à Lionel Jospin, donc rebelote. Le problème, c'est que la faiblesse de Theresa May accentue l'incertitude. Veut-elle sortir complètement de l'Europe, comme elle l'a dit précédemment ? Devra-t-elle, sous la pression des gens plutôt pro-européens, négocier un statut comme celui des Norvégiens, un accès au marché unique et moyennant une contribution financière ? Tout cela est très compliqué. Le danger, c'est l'incertitude. Mais, doit dire ce qu'elle veut, s'y tenir et négocier. Je vous le dis, Michel Barnier est prêt, Nicolas.
Magnifique, merci Arnaud Le Parmentier pour cet édito sur Super Barnier. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur le BAC, l'édition 2017 démarre demain. C'est un marathon pour les 720 000 élèves de terminale. S'il faut mieux être prêt sur le plan intellectuel, ça peut aider. Il faut aussi aborder la semaine d'épreuves en bonne forme. N'ayez pas peur, chers élèves de terminale. Les derniers conseils avant le jour J avec les spécialistes du téléphone sonne 01 45 24 7000.